tous les chromosomes du monde pouvaient se donner la main, ça ferait une belle omelette sans casser des œufs. Implacable. Après avoir lu l'illisible, il est temps d'écouter l'inaudible. Volume 3. Bonjour, je suis Walter Proof. Vous écoutez l'Inaudible, le podcast de l'illisible. http://walterproof.free.fr/l'illisible. Deux petites infos pour commencer ce volume 3. D'abord, Désiré Belladone de l'excellent podcast Ma Parole nous a fait l'honneur d'apprécier l'inaudible. Il a diffusé notre bande-annonce dans un de ses derniers podcasts. Merci Désiré. Ensuite, l'inaudible est désormais référencé par iTunes, ce qui va nous valoir à coup sûr un nombre d'abonnés considérable. Peut-être 5. Soyons fous. Cela dit, il est temps d'écouter l'inaudible. Si vous ne cherchez rien, ne bougez pas. C'est ici que vous allez l'entendre. Une auditrice assidue me posait naguère cette question. Qui a gagné le match AEK Telefunken Real Player en quart de finale de la Coupe de l'Empereur ? Si je puis me permettre cette réponse pour le moins directe, la question n'est pas si conne qu'elle en a l'air. Car en fait, de l'issue de ce match dépend en grande partie le sort de notre ami Rabindranath. Rappelez-vous les réflexions sur le mythe d'Estelle. Je m'explique, Rabindranath Tagore a toujours pensé que la précarité de l'expérience métaphysique relevait du fantasme, plus que de la défaillance cardiaque. Ce qui explique que lorsqu'il préconise le rejet de toute interdépendance macrocosmique, il affiche en fait une volonté implicite de séduire le côté rebelle de notre personnalité. Je sais que ça peut prêter à rire au premier abord, mais réfléchissez-y deux secondes avant de rigoler et vous verrez, bande de nazes. Ah, à propos, le Real Player a battu Telefunken 3-2. Après prolongation. Lulu lit. Et quand Lulu l'a lu, elle le dit. Et c'est la lu. C'est inaudible. C'est sur l'inaudible.
Esther de Glicol n'est pas une débutante, c'est le moins qu'on puisse dire. Auteur de 118 ouvrages, tous plus abscons les uns que les autres, surtout les autres d'ailleurs, sur des thèmes aussi divers que la solitude des moules à la veille de Noël, la vanité des poupées gigognes ou le remodelage des caroncules amylacées après la tonte, correspondante du monde diplomatique pendant la guerre du Golfe de Saint-Germain-les-Corbeil, pédiatre diplômée de l'école de kendo de Voisins le Bretonneux, égérie de Beauvoir si belle en ce miroir, elle n'en reste pas moins d'une fraîcheur d'esprit paralysante. Dans son dernier opus, trouvé ce matin au marché du même nom et intitulé « La glossolalie primale racontée aux enfants », elle décortique la façon dont les amphibiens du Crétacé avaient coutume de traiter le dilettantisme paradoxal, et sans forcer. Esther de Glicol, bonjour.
Bonjour.
Dans votre ouvrage, vous remarquez avec justesse que dans le cochon, tout est bon. Comment pouvez-vous en être si sûr ?
Tout simplement parce que c'est vrai. Voyez-vous, aussi intolérable que cela puisse paraître, la volonté nietzschéenne de contrecarrer les oulémas podologues m'a toujours stupéfiée. Pourquoi ? Mais surtout de quel droit ? Alors que le cochon, c'est si bon.
Oui, c'est ce que vous voulez dire par là.
Par où ?
Par là.
Ah oui, oui, c'est vrai. Exactement, tout à fait.
Cela dit, quand on a dit ça, on n'a rien dit, ne pensez-vous pas ?
Eh bien, ça mérite réflexion.
Oui ?
Oui, tout à fait basiquement, quand on dit ça, on n'a pas vraiment rien dit, puisqu'on a dit ça. Si on n'avait rien dit, on n'aurait pas dit ça. Maintenant, qu'est-ce que ça ?
Alors prenons la chose autrement. Quand vous dites la structure de l'anchois fait appel à toutes les significations cachées des périodicités culturelles en usage sous la Ve République, est-ce que vous ne vous foutez pas un peu de notre gueule ?
Un peu, vous êtes bien modéré.
Carrément alors ?
Carrément, oui. Et avec plaisir en plus.
Alors, c'est bien ce qui me semblait. Esther de Glicol, merci.
Il n'y a vraiment pas de quoi.
Oui, je sais.
Croyez et multiplicez, il en restera toujours quelque chose. Veuillez écouter maintenant un nouveau questionnement du professeur Lao Tet Dan pour ou contre la soupe de nouilles. Pour ou contre la soupe de nouilles ? Ah tiens, bah voilà une question qu'elle est bonne. Une question si bonne qu'elle en induit instantanément une autre, nettement corollaire. La question est-elle aussi bonne que la soupe de nouilles elle-même ? Voilà une question qui mériterait sans nul doute une réponse, et pas qu'un peu. Mais bon, on n'a pas que ça à faire. Pour reprendre les choses par leur début, ce qui est souvent la meilleure tactique, il faut bien le dire, de quelle soupe de nouilles parlons-nous ? Car il faut le savoir, il y a soupe de nouilles et soupe de nouilles. Référons-nous à la typologie la plus souvent employée par les auteurs. Premièrement, soupe de nouilles aux nouilles. La plus fréquemment mentionnée dans les textes sacrés, spécialité de Rabindranath Tagore, Estelle l'adorait. Mais l'histoire finit mal. Voir les réflexions sur le mythe d'Estelle. Deuxièmement, soupe de nouilles avec des nouilles. Variante subtile de la précédente. On en trouve la trace dans le De Rerum Diabolicum de Saint Augustin, 1602-1604. Il y explique longuement l'importance de la vacuité intrinsèque dans sa préparation et la nécessité d'y rajouter une pincée de sel juste après la première cuisson. Troisièmement, soupe de nouilles sans nouilles. La plus marrante. Mais aussi la plus délicate à préparer. Hervé de la Pétassière, 1840-1962, a fait remarquer dans son opuscule « Histoire d'un gaspacho morne », le glutamate illustré, combien il était difficile de la remuer une fois cuite. Il conseillait de le faire auparavant, une bonne fois pour toutes, et de se retirer en méditation autochtone pendant la digestion. Comptez deux bonnes heures. De ces trois versions, laquelle retiendrons-nous pour notre démonstration ? Une quatrième, la soupe de nouilles malgré les nouilles. Pourquoi me direz-vous ? Ah, parce que, vous répondrez. Vous y attendiez à celle-là, je parie, et ben voilà, comme ça vous n'êtes pas déçus. Bon, on peut y aller ? Reprenons donc. Quelle était la question déjà ? Ah oui, pour ou contre le chabichou hongrois ? Bon, écoutez, j'ai comme une petite fatigue, je vous propose de faire une pause, nous reprendrons dans quelques instants. Ou pas d'ailleurs. Un peu de musique maintenant, on écoute Voltage Clamp par le Rubber Band Banjo, un groupe américain du Michigan, apparemment composé d'une seule personne. Extrait de l'album Hyper Mutator, sorti en juillet dernier. C'est inaudible, c'est sur l'inaudible. We'll be right back. C'était RBB, Rubber Band Banjo, le banjo à élastique. Si ça vous plaît, vous pouvez acquérir l'album Hypermutator pour la modique somme de $10 sur leur site www.rubberbandbanjo.com. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle peut donner. Et encore avec parcimonie. Et c'est d'ailleurs valable pour un garçon. Ou pour un bigorneau. Ou tout autre être pensant. C'en est fini, enfin, de ce troisième volume de l'Inaudible, le podcast de l'illisible. Si c'était assez inaudible pour vous, ou trop inaudible, ou insuffisamment inaudible, laissez donc un commentaire avisé ou un Spoutnik médiéval sur le blog de l'illisible http://waterproof.free.fr/l'illisible ou sur le site de téléchargement de l'inaudible http://wproof.podemus.com. Je suis Walter Proof, bien entendu. Bonsoir et à bientôt, peut-être.